Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Comédien, metteur en scène, mime, chorégraphe et poète, Jacques Lecoq, que vous allez découvrir dans cette émission enregistrée en 1997, a d'abord été un sportif de haut niveau. Il savait donc, d'emblée, que ce qui, au théâtre, pense, souffre, porte les émotions et les sensations, c'est le corps. On lui doit la redécouverte de la Commedia dell'arte et ses conséquences contemporaines, comme l'utilisation du masque et certaines recherches chorégraphiques dans les gestes apparemment les plus quotidiens. Jacques Lecoq était aussi un remarquable professeur. Son école, célèbre dans le monde entier, lui survit. Elle est installée dans un local construit en 1876, rue du Faubourg-Saint-Denis, à Paris, dans le 10e arrondissement.
À mots découverts, aujourd'hui, Jacques Lecoq. Les Français sont de drôles de gens, capables de s'extasier devant le moindre acteur qui peut s'enorgueillir d'un stage aux États-Unis, particulièrement à l'Actor Studio, et d'ignorer dans le même temps que l'acteur américain qui a eu l'Oscar cette année à Hollywood sort d'une école française. C'est celle de Jacques Lecoq, solidement implanté à Paris depuis 1956 et réputé dans le monde entier, sauf peut-être chez les Français. Pourtant, c'est de chez lui aussi que sortent des personnalités comme Ariane Nouchkine, Luc Bondy, Philippe Avron, ou l'écrivain Édouard Manet, qui n'est pas le seul de ses élèves à avoir pris la plume. C'est que l'enseignement de Jacques Lecoq va bien au-delà d'un cours de théâtre traditionnel. À l'origine, notre homme était professeur d'éducation physique, puis il a exercé la kinésithérapie auprès de personnes handicapées. C'est une rencontre avec Jean-Louis Barrault qui l'a engagé sur la voie du théâtre, et c'est Jean d'Asté à Grenoble qui lui a fait faire ses premiers pas de comédien. Jouer, c'était bien, mais pour Jacques Lecoq, chercher, c'était encore mieux. Alors il a étudié durant 8 ans en Italie, le masque, la commedia dell'arte, le cœur tragique, et en rentrant à Paris, il a accueilli ses premiers élèves, enfin, ses premiers pas tout à fait, puisqu'il avait fondé avec Giorgio Strehler l'école du Piccolo Teatro à Milan. En 69, il s'est mis à enseigner aussi aux Beaux-Arts, une vision de l'architecture à partir du corps humain. Et il y a une vingtaine d'années, sa propre école s'est enrichie du LEM, le Laboratoire d'études en mouvement. Ce qui vous fait, Jacques Lecoq, beaucoup d'activités, et beaucoup d'activités difficiles à résumer en quelques mots. Alors on a une heure pour parler de ce que vous avez fait, de ce que vous continuez à faire et de votre méthode. Et puis bientôt, il y aura un livre aussi, qui sera un livre de référence, puisque pour la première fois, avec Le corps poétique, c'est le titre de ce livre qui va sortir dans quelques jours chez Actes Sud Papier. Dans ce livre, il y a absolument tout ce que vous avez envie de transmettre et tout ce que vous avez transmis déjà à combien d'élèves, vous le savez?
J'ai pas compté, mais peut-être, je sais pas... Peut-être 5000.
5000 élèves, oui. Actuellement dans votre école, qui se trouve dans une ancienne salle de boxe, rue du Faubourg-Saint-Denis, qui s'appelle Le Central, hein, c'était la salle de boxe Le Central. Actuellement, il y en a combien des élèves?
En ce moment, nous sommes plus de 100. Plus de 100.
Nous sommes, dites-vous.
Nous sommes.
Vous mettez avec.
Oui, parce qu'on fait partie d'une même famille. Alors, oui. 100, 120... Voilà, c'est à peu près les chiffres que nous avons à l'école.
Et quelle est la proportion de Français, alors?
Les Français sont minoritaires par rapport aux étrangers. Les étrangers ont souvent fait leur école dans leur pays. Les Français, moins. Alors, meilleur tous les cas, tout ça, ça fait une osmose intéressante, une patte très créative.
Alors, il y a combien de nationalités?
35 par saison.
35 nationalités différentes. Alors, je crois qu'il vaut mieux tout de même, poursuivre votre enseignement, comprendre et parler le français. Hein?
Oui, mais en tous les cas, beaucoup disent qu'ils comprennent le français, mais ils le comprennent au fur et à mesure, parce que les mots que des fois que nous employons à l'école ne sont pas des fois compris aussi par les Français, parce qu'on invente des mots qui n'existaient pas pour dire des choses.
Par exemple?
Par exemple, quand je pense à des mots difficiles, à mimeur, c'est quand même difficile, c'est peu employé, mimeur.
Oui, on dit un mime, mais un mimeur, non?
Un mimeur, c'est peu employé.
Et puis on dit mimer, et vous dites mimager.
C'est un mot qui est tellement sclérosé, et tellement ambigu, et tellement formidable en même temps, que je me suis toujours battu pour qu'il soit plus large. Qu'il soit plus large, ce mot. Parce que je voulais éviter l'entonnoir de ce mot.
Il y a une confusion qu'on fait souvent à propos de votre école, Jacques Lecoq, c'est qu'on dit parfois que c'est une école de mime. Parce que évidemment, vous travaillez beaucoup sur le corps, mais ce n'est pas une école de mime.
Non, parce qu'en France, on a séparé directement le corps de l'âme depuis longtemps, le corps de l'esprit depuis longtemps. Et au fond, le théâtre français a un peu rejeté l'idée du corps. Et le mime, c'est forgé en France, c'est identifié en France, c'est unifié en France. Alors que dans des pays, par exemple, différents, comme l'Italie, il n'y a pas ce problème-là. Le mime est intégré complètement à l'art du spectacle. Je ne parlerai que de Dario Fo.
C'est vrai que le Dario Fo, avec qui vous avez travaillé, Dario Fo, qui a eu cette année le prix Nobel de littérature.
C'est ça.
Alors, c'est vrai que dans l'enseignement traditionnel du théâtre, ce qu'on fait travailler aux élèves, c'est essentiellement la voix.
Oui, mais en tous les cas, dans l'enseignement traditionnel, on pense à l'acteur. Pour moi, il n'y a pas que l'acteur, il y a l'acteur, le metteur en scène et l'écrivain qui font partie d'une grande unité et il faut pour qu'ils écrivent juste, qu'ils jouent juste, qu'ils mettent en scène juste, qu'ils soient liés à un phénomène qui est celui du jeu. Il faut jouer juste. Et à partir de là, on peut écrire juste.
Et on ne joue pas juste sans son corps, évidemment.
C'est ça. Et le corps n'est pas séparable de la tête. Quand je dis le corps, tête comprise.
Alors, le corps poétique, qui est le titre du livre à paraître, là, il y a la poésie aussi dans votre liste, Jacques Lecoq. Le corps poétique, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une drôle d'expression, le corps poétique.
Je pense qu'il n'y a pas une grande poésie sans la présence du corps. Mais si on voit le corps comme un instrument de gymnastique, évidemment, ce n'est pas du tout ça.
Vous pourriez, puisque vous avez été prof de gym.
Oui, je pourrais, mais justement, c'était une première trace. J'ai travaillé les actions physiques par le sport. Ensuite, j'ai mimé ce que je savais faire. Ensuite, j'ai mimé ce que je ne savais pas faire. Et ça m'a conduit à Saint-Jean-de-Pers, à Guyvic, à Michaud. Quand je pense au corps de Michaud, par exemple, c'est un corps de sauteur. Il saute continuellement, Michaud. Si je pense à Guyvic, il est enraciné dans le roc, dans la terre, voyez-vous. Donc il y a un corps physique qui n'est pas forcément le corps humain anatomique, mais qui est forcément un acte physique.
C'est pas si banal que ça comme parcours de partir du sport, de partir de l'éducation physique pour arriver à la poésie.
Oui. Mais à mon époque, quand j'ai commencé le sport, c'était juste après la guerre. Et la vie était en sorte qu'il y avait tout à refaire. Alors, il y a eu des activités qui se sont décloisonnées et on a pu travailler ensemble, le théâtre, le sport. C'était ouvert, voyez-vous. Et on a vécu, mes camarades et moi, dans une véritable poétique du sport. C'est-à-dire quand on courait sur le stade, bon, on courait pas forcément pour gagner. Comme maintenant, il faut gagner à tout prix. Là, on courait pour le plaisir de courir et aussi de voir que l'espace changeait au soleil quand nous courions dans les courbes du stade à des moments différents de la piste. Donc, on est né dans ça, voyez-vous. Mais maintenant, si on parle du sport, c'est plus tout à fait ça.
Ça veut dire que vous, par exemple, quand vous regardez les Jeux Olympiques aujourd'hui, vous n'y voyez plus de poésie?
J'admire le geste extraordinaire. S'il y a poésie. Mais à un moment, est-ce que les athlètes savent ce qu'ils font vraiment? Qu'ils font un acte poétique?
La poésie, il faut qu'elle soit consciente? Alors il faut qu'on soit conscient d'être en train de produire un acte poétique?
Moi, je pense que la poésie, c'est un en plus. Ce serait pour moi le but, c'est de rentrer dans un acte poétique, pas dans un acte de gagneur.
Alors, pourquoi, Jacques Lecoq, vous êtes-vous intéressé, puisqu'on se dit le corps, le théâtre, pourquoi vous êtes-vous intéressé au masque? Puisque, la poésie du corps, vous le dites, elle existe, enfin, elle est en chaque homme, en fait,
oui,
il suffit de la travailler. Mais pourquoi
ça.
Le masque?
Parce que mes expériences que j'ai eues dans la pratique du théâtre sont exactement la pédagogie de mon école. C'est-à-dire, il y a un parallélisme entre ma vie, faites de hasard, de rencontres, et puis ensuite ma pédagogie. C'est complètement lié. C'est-à-dire, si on fait du masque à l'école, c'est parce que Jean d'Asté, qui était le gendre de Copeau, m'a mis sur la tête un masque dit noble à l'époque, et j'ai senti là une émotion assez extraordinaire. Quand on a fait des thèmes comme l'Exode, quand on a travaillé sur des noms japonais comme la rivière Sumida au temps de Grenoble, où il dirigeait le centre de Grenoble. Alors là, j'ai eu des émotions vraiment qui poursuivaient mon émotion sportive. C'est-à-dire que le geste développait autre chose que simplement la performance.
Alors, le masque, il est dans votre liste, pas à la lettre M, mais à la lettre N où vous avez écrit neutre, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, chez Copeau, ça s'appelait le masque noble, chez vous, ça s'appelle le masque neutre.
On l'appelait aussi, je pense, aussi le masque neutre, mais j'aimais bien ce mot de Copeau, masque noble. C'était magnifique de donner à ce masque cette qualité-là. Parce qu'à mesure que je travaille ce masque depuis pas mal de temps, c'est toujours intéressant. C'est de plus en plus intéressant. Alors que dans les masques expressifs, on a besoin de chercher des personnages différents, de trouver toujours du nouveau. Le masque neutre, il est unique. Et dans la pédagogie, il s'est mis comme centre d'intérêt de la pédagogie. Être neutre, comme je dis toujours, c'est pas comme la Suisse, on ne participe pas aux
c'est
guerres,
pas d'être
aux
rien.
Événements. C'est d'être sans passé. Donc, sans conflit et sans passé. Donc, c'est un masque ultra positif pour celui qui est curieux et qui veut appréhender le monde pour la première fois.
Alors, cette neutralité, Jacques Lecoq, elle mérite qu'on en parle davantage. On va le faire dans quelques instants.
Elles s'en vont toujours par deux avant le dîner discrète. Pour se recoiffer un peu, pour s'échanger en cachette, quelques potins, quelques aveux, quelle est la raison secrète de cet exil mystérieux qui les retient au petit coin, nos gonzesses devant les lavabos se repoudrent le bout du nez, se font les lèvres cerises, nos gonzesses sous les néons pas beaux, en dégrafant négligemment un bouton de leur chemise. Elles se retournent dans le miroir, par-dessus leur épaule, pas très rassurées pour voir si par malheur ou par hasard, leur joli cul n'aurait pas disparu. Puis, innocentes, mais la tête haute, elles nous reviennent enfin parfumées. Comme pour un autre, nos gonzesses devant les lavabos. Est-ce qu'elles parlent de moi, de nous? Est-ce qu'elles disent des gros mots? Nos gonzesses sous les néons pas beaux font semblant de se laver les mains, qu'elles ont blanches comme du bon pain. Un beau jour, elles disparaissent sans laisser d'adresse, à peine un petit mot sur le miroir du lavabo. De leur rouge à lèvres, souvent, elles écrivent en lettres de sang. Simplement, adieu salaud, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre mot.
devant les lavabos, c'était Renaud. Alors cette neutralité dont on parlait Jacques Lecoq avec ce masque neutre, alors faut dire simplement, le masque neutre, c'est un masque qu'on se met sur le visage et qui n'a aucune expression.
Hein, qui n'a pas d'expression. Il exprime le calme, d'abord. Un peu comme les masques de la jeune fille au Japon, comme le masque en Côte d'Ivoire aussi, du reste qu'ils appellent le masque du calme. Donc il n'a pas d'expression particulière, il est une émotion d'équilibre qui est celle du calme. Donc il est référentiel pour moi. Si on connaît bien cette émotion du calme, on peut jouer mieux toutes les dérives, toutes les masses expressives, tout ce qui sera par la suite des personnages.
Demander au départ à quelqu'un dont le métier va être d'interpréter, lui demander au départ donc cette sorte de neutralité qui, on l'a dit, n'est pas n'être rien, hein, mais comme vous l'avez dit, effacer le passé, être en prise totale avec le présent, c'est généralement tout le contraire de ce qu'on demande dans l'enseignement à un acteur.
Là, on demande qu'il soit disponible à une première fois. Et la première fois, c'est peut-être le contact avec un personnage, sans apporter son passé, ses conflits, toutes ces choses qui peuvent exister dans sa vie. Pour ça que pour moi, je pense que c'est pas bien pour un jeune comédien de lui faire ressortir ses souvenirs et son passé. Je suis très pudique sur ça. Et je préfère le considérer comme quelqu'un de la première fois. Et si ce masque-là est nécessaire au jeu, c'est très bien.
Alors, des premières fois, vous leur en faites vivre à vos élèves apprentis acteurs, par exemple en leur demandant, il y a énormément de choses dans votre enseignement, mais par exemple en leur demandant tout d'un coup d'être un arbre.
C'est-à-dire quand je vois un arbre, il y a deux solutions. Ou je sors mon petit calepin scout et je dis combien il a de feuilles, comment il est dentelé et qui m'explique quel est cet arbre. Ou alors je suis en face du phénomène de violence qui est un arbre, dans son enracinement, dans ses projections de branches, dans son conflit avec le vent. Et cette émotion-là, elle est formidable. Quand on pense à la peinture, par exemple, quand on voit les arbres de Cézanne dont les troncs se croisent, souvent, quand on voit l'arbre de Soutine, qui est un arbre écorché, c'est toujours l'arbre. Mais les artistes en ont vu une facette. Mais avant de voir son arbre, c'est l'arbre.
Être un arbre, à un moment donné, Jacques Lecoq, se donner un temps, comme ça, dans la journée, en se disant, allez, je suis un arbre, et en faisant ce qu'il faut pour y arriver.
Oui.
Est-ce que c'est à la portée de tout le monde?
Oui,
ou est-ce que ça...
absolument.
Oui.
Dans l'éducation, ça devrait être dans l'éducation des jeunes gens, qu'ils s'identifient aux choses de la nature, parce qu'il ne faut pas oublier que la nature, c'est quand même le premier des langages. De ressembler à, de connaître quelque chose en faisant corps avec.
Alors, il y a aussi des exercices, je sais que ça va faire rire, mais dans le même ordre d'idée, vous pouvez demander aussi à vos élèves, par exemple, d'être une saucisse en train de cuire.
Oui, alors c'est le côté un petit peu amusant qu'on peut... de se faire cuire un œuf, les gens n'ont même pas vu ce que c'est. La tragédie d'un œuf. Si, par exemple, vous prenez un œuf, vous le mettez dans votre poêle et vous le faites frire, non ? Et si vous en refaites des mouvements... Je ne dis pas la figuration d'un œuf.
Ah ben, on ne peut pas ressembler à un œuf pour de vrai, ça
non,
c'est...
Oui. Non, mais la dynamique de la cuisson, c'est Ravensbrück. C'est Ravensbrück. Et si quelqu'un entre dans la salle au moment où nous faisons les matières et leur drame, ils ne pensons jamais que c'est une cuisine spéciale, anecdotique, pas du tout. Ils verront une grande tragédie.
Oui, on est bien d'accord, Jacques Lecoq, qu'il ne s'agit pas de s'attendrir sur l'œuf ou sur la saucisse. Hein,
ça fait plaisir de le dire.
C'est pas ça le propos, mais c'est vrai que tout d'un coup... moi, je vais vous dire, il y a une de vos élèves qui m'a mimé à moi. Enfin, qui m'a mimé, c'est un mot que je ne devrais pas employer. Qui m'a fait la saucisse en train de frire. Elle s'est allongée par terre et elle me l'a fait. Et ensuite, elle m'a demandé ce que j'en avais... Enfin, ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti.
C'est le côté anecdotique, mais enfin, dans une longue vue, il y a un petit bout de la lunette, et puis il y en a un grand. On fait la même chose avec Saint-Jean-de-Perse.
Hein? Bien sûr.
Quand Saint-Jean-de-Perse arrive avec ses couleurs, avec ses pans de mur dans les vents, c'est pareil. Voyez-vous?
Alors, les couleurs, justement, il y a l'indigo dans votre liste. Il y a la couleur indigo.
Ah ben, c'est une couleur qui m'a fasciné, l'indigo. J'étais à la recherche de l'indigo souvent parce que nous travaillons au LEM. Ce laboratoire d'études du mouvement, nous travaillons les couleurs et on travaille sur la dynamique des couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais indiquer au bleu, vert, jaune, orange et rouge. Et à un moment, quand on fait bouger les couleurs devant aux gens, aux personnes, ils ont un trouble à l'indigo.
Tous.
Oui, parce que c'est une couleur qui est formidable et qu'on n'arrive pas bien à percevoir. Parce qu'elle est, elle chevauche entre le violet et le bleu. C'est plutôt un bleu qu'un violet, mais c'est une couleur magique. Et quand on est à la recherche de l'indigo, comme j'y suis allé, de la racine, de la plante de l'indigo, bon, à la teinture indigo des berbères et tout ça, la couleur est tellement changeante du clair au foncé que c'est une couleur magique magnifique. Et quand je fais travailler la dramatique de l'arc-en-ciel en partant du rouge, comme en Angleterre, parce que nous on part du violet, en Angleterre, ils partent du rouge pour nommer l'arc-en-ciel.
Oui.
Et quand on dit, voilà, vous allez passer à travers des couleurs successives et vous allez sentir quel est le drame qui est joué. Et c'est formidable, ça, parce qu'on a la naissance dans le rouge, on a l'explosion de jeunesse dans l'orange, et puis ensuite, on ne sait plus où on va dans le vert, qui est directionnel. Et puis ensuite, on va tomber dans le grand bleu. Alors, on respire finalement dans un grand espace. Et puis ensuite, on passe au violet, le violet qui se tord lentement dans la nuit, et on passe par les portes de la nuit. Et l'indigo, c'est la porte de la nuit.
C'est pour ça que ça vous fascine.
Ça me fascine. C'est des passages qui me fascinent.
Ce que vous décrivez là, Jacques Lecoq, ce voyage à travers les couleurs, que vous utilisez aussi les couleurs dans votre enseignement. Hein, ce que vous décrivez là, c'est un itinéraire qui évidemment a les mêmes étapes un peu pour tout le monde, oui. Mais qui se vit très différemment selon les individus.
Oui, mais quand à partir de l'état neutre disponible à l'événement, et si on se met à jouer les couleurs sans rien dire du tout aux élèves, on s'aperçoit qu'il y a un mouvement qui apparaît identique à chaque couleur émise. Mmh. C'est troublant. Et je ne veux pas en faire un système. Mais le bleu, qui bouge comme du bleu, dans tous les pays, quelles que soient les cultures, ça va bouger pareil. Alors les cultures, bon, emploient la couleur pour des symboles ou des fins précises. Mais la couleur, dans sa dynamique, Elle véhicule quelque chose d'universel qui appartient à tout le monde. Et ça, c'est l'expérience que j'ai depuis pas mal d'années.
Vous ne voulez pas en faire un système. Votre enseignement, c'est une méthode. Ça n'est pas un système, dans la mesure où on s'aperçoit que ça produit des acteurs ou des écrivains ou des metteurs en scène. Parce qu'il y a des artistes de toutes sortes qui sont sortis de chez vous.
Oui.
Ça produit des gens très différents, des personnalités très différentes. Qu'y a-t-il de commun entre Ariane Nouchkine et Pierre Richard qui sort aussi de chez vous?
Oui, parce que, oui, mais en tous les cas, ils sont unis par le mouvement. Le mouvement avec un grand M, reconnu dans le corps mimeur, dans le corps on détient le mouvement de par le fait qu'on est debout sur la terre, dans sa gravité, dans son équilibre, qu'on marche et tout ça. Tout le monde fait partie de cette même événement-là. Et c'est très important, justement, de trouver ce fondement qui va rassembler tout le monde. Et chacun marchera comme il veut. Il aura sa propre démarche. Mais la marche est avant les démarches.
La vie, c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage, et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Où je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Où je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. J'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage,
un matin. Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. Trop je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage, dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Trop je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. S'endorment aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Trop je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre, je sais, mais je peux pas m'arrêter. Y'a plus de nom sur les gars. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul.
Je cours tout seul, c'était William Scheller. Alors dans votre liste, Jacques Lecoq, il y a la cristallographie. La cristallographie, est-ce que c'est ce qui la manie qui consiste à les collectionner, les cristaux, ou...
Il y a tout. Je suis un maniaque, je suis un malade des cristaux. J'adore les cristaux mais ça me fascine, cette cristallographie. Ça me fascine le phénomène aussi qu'une matière saturée dans une soupe qui n'a pas de décision, à un certain moment va muter et va devenir un cristal, comme si les droites apparaissaient dans les courbes. Et ces décisions-là, pour moi, sont fascinantes, parce que c'est une définition du style. En théâtre, c'est pareil. Quand on improvise au psychologique au début, bon, les gens se rejouent dans la grande soupe de la vie. Ils refont un peu eux-mêmes, il y a tout ça. Et puis à un moment, si on met un masque, à un moment, si on a une exigence en plus, bon, il y a des attitudes qui vont naître du corps ondulatoire naturel pour devenir des corps de style, comme sont les grands théâtres orientaux, voyez-vous, où il y a une cristallisation dans le sens cristallographique, d'une matière dramatique, en somme. Donc pour moi, c'est assez analogique.
Donc les cristaux, vous les collectionnez, vous les regardez, vous les touchez?
Ah oui, j'adore. Ouais. J'adore. Je suis un collectionneur des cristaux puis d'autres choses. Et bon,
Qu'est-ce que vous collectionnez
encore? On est
maniaque
des livres.
Les livres?
Ben oui. Ouais. J'ai une très belle collection de livres sur le théâtre, sur le mouvement. Et oui, c'est une maladie. C'est une maladie.
Vous êtes un malade.
De la collection, peut-être.
Il y a l'humour dans la liste aussi. Évidemment, votre méthode, toute votre pédagogie, c'est extrêmement sérieux, Jacques Lecoq. Mais ça n'exclut pas l'humour.
Ah bah non, parce que si on n'a pas l'humour des fonds, alors on y reste, hein, comprenez-vous. Parce que si on va au fond des choses, au fond de soi-même, si on est tenté par cet absolu de tout découvrir, la chose, il faut se méfier. Parce qu'on peut y rester, on peut se noyer, il faut être très fort. Donc l'humour permet de dire, bon, ce n'est qu'un jeu. C'est-à-dire, on ne peut pas, en face du mystère, être sérieux, parce qu'on ne peut pas le comprendre. Alors, autant avoir le faire avec humour. Pour moi, je pense, j'avais connu à un moment un grand swami, à l'époque, qui avait apporté toutes les religions hindoues en France. Je ne me rappelle plus son nom exactement, c'était un nom difficile. Et on lui demandait... Pas moi, mais beaucoup de femmes, du reste, avec les yeux très grands, ouverts, cherchant quelque chose qu'elles n'atteignaient pas. Mais Swami, quelle est la plus grande chose au monde? Est-ce l'amour? Elle dit non, l'humour.
Ouais.
Magnifique.
Ce mystère, Jacques Lecoq, qui pourrait vous donner le vertige si vous n'aviez pas cet humour, ce mystère c'est quoi? C'est le mystère de la vie et de la mort, tout simplement?
Oui, je pense aussi qu'il y a, il y a une quête à l'école dans tout ça. C'est à mesure qu'on rentre dans le mouvement, il n'y a pas que moi, d'autres personnes qui sont rentrées dans le mouvement, on touche quelque chose de formidable. Et alors, bon, alors, il faut avoir de l'humour pour ne pas figer ça dans des méthodes, dans des systèmes, dans des codes ou dans des formes figées, évidemment. Mais à un moment, ça nous porte à s'ouvrir vers une connaissance aussi. Une connaissance, c'est une quête.
Et pas une quête simplement de soi-même.
Non, pas du tout. Mm. Pour moi, le moi, il est en trop.
Le moi, il est en trop.
Si on cherche son moi, on ne trouve personne.
Je crois que c'est Antoine Vitesse qui a enseigné chez vous, Jacques Lecoq, Antoine Vitesse qui disait aux acteurs précisément, ne cherche pas en toi, il n'y a rien, cherche dans les autres.
Ah, c'est dans les autres qu'on est soi-même. Alors les gens qui se recherchent dans leur passe, dans tout ça, pour moi non, c'est pas mon chemin. C'est-à-dire d'être ensemble avec quelqu'un pour regarder la lune, ça c'est intéressant. Et je suis en contact avec cette personne-là. Mais le face-à-face avec une personne, je n'ai rien à dire.
Regarder la lune avec quelqu'un, Jacques Lecoq, ça vous arrive?
Oui, ça m'arrive de regarder la lune, de regarder autre chose, évidemment, mais d'être lié par une curiosité commune.
Mettre la ceinture lorsqu'on auto, on va se promener. Mais avant de mettre la ceinture, bah la ceinture, faut la trouver. Y'a un bout avec un truc, y'a un bout avec un machin. Quand on enfonce le bout, y'a le truc, il doit faire clic dans le machin. Bout qui se termine par un machin, s'accroche à gauche sur un truc. Mais comme on ne trouve jamais le truc, on laisse pendouiller le machin. Seulement le bout qui a un truc, lui s'accroche pas sur un machin. Ce qui fait que lorsqu'on cherche le truc, il est paumé sous les coussins. Votre voisine cherche aussi son truc. En même temps que vous, elle met sa main
juste avant, elle vous fauche le truc.
Et vite fait clic dans son machin. Quand on a le bout qui a le truc, faut trouver le bout qui a le machin. On gratte et on trouve des tas de trucs, mais on ne trouve jamais le machin. Car la portière, c'est là qu'est le truc coince dehors votre machin. Ce qui fait qu'on ramène des tas de trucs et de la boue sur le machin. On a enfin le machin et le truc, on fait clic, on respire un brin. Mais on voit qu'il y a du mou dans le truc et des tas de nœuds dans le machin. Pour tendre la courroie du truc et dénouer celle du machin, on fait des nœuds à celle du truc et on détend celle du machin. C'est deux fois ça y est, j'ai mon truc bien à plat avec mon machin. Et bien voilà, j'ai croisé le truc de la voisine avec le mien. Alors faut décliquer nos trucs et décroiser nos deux machins. Et quand on veut remettre nos trucs, faut en régler ces cinq machins. On va partir maintenant que nos trucs nous paraissent parfaitement au point. Mais j'ai tellement serré le truc que je ne peux plus desserrer le frein. Alors j'envoie balader le truc et je fiche en l'air le machin.
Je mets le contact et des tas de trucs.
Prêt à partir,
je desserre le frein.
Mais un flic vient près de la voiture et nous dit: faut pas oublier de bien attacher votre ceinture.
Mais la ceinture, faut la trouver.
Il y a un bout avec un truc, il y a un bout avec un machin. Quand on enfonce le bout d'un truc, il doit faire vivre dans le machin. Et puisqu'il faut qu'on vous explique dans le langage de notre époque, écoutez ce conseil d'un flic. Un petit clic vaut mieux qu'un grand choc.
La ceinture, c'était les frères Jacques. La famille, Jacques Lecoq, dans votre liste, la famille, c'est, quand vous écrivez ce mot-là, vous pensez aux artistes ou vous pensez à la cellule familiale?
Les deux, je pense, j'aime beaucoup la maison, j'aime beaucoup les maisons. J'aime beaucoup les maisons, évidemment, peut-être, pour être protégé.
Ça permet d'y entasser ses collections?
J'aime bien ce lieu privilégié. Que pour moi, une école, c'est une maison aussi. C'est des lieux où on peut se tromper, on peut faire des bides, tout ça, mais c'est un lieu privilégié, protégé, évidemment. Évidemment, il faut les prévenir que la sortie, c'est pas pareil. Mais qui vivent là, des émotions, des moments qu'ils n'oublieront pas. Et puis ensuite, s'ils ont des propos forts, ils chercheront à les défendre après.
L'école, vous, quand vous étiez élève, alors, vous en gardez quel type de souvenirs?
J'étais pas un très bon élève, j'étais un élève moyen. le souvenir...
Turbulent ? Est-ce que vous étiez turbulent ?
Non,
vous n'avez pas le corps qui avait besoin de bouger.
J'aimais la géométrie.
Oui. Ah, vous
aimiez la géométrie ? Oui, la géométrie.
C'est ce qui vous a poussé ensuite à vous intéresser à l'architecture ?
L'architecture, c'est venu aussi par hasard. C'est-à-dire que j'ai connu quelqu'un qui était Jacques Bosson, l'architecte, qui m'a demandé un jour de venir enseigner aux Beaux-Arts, à UP6. Alors, j'ai dit, ça m'intéresserait. Et puis, j'ai fini professeur en architecture.
Alors que vous n'êtes pas architecte, évidemment.
Non, mais c'était dans les années 69, 70. Et là, j'ai commencé une étude sur l'architecture à partir du corps humain. C'est-à-dire, on travaillait avec les architectes à leur faire sentir les espaces, l'espace, les couleurs et tout ça, et à construire, évidemment, à partir de tout ça.
Est-ce qu'il y a eu des réalisations, Jacques Lecoq, à partir de cette vision de l'architecture ?
Il y a eu sûrement des architectures qui ont été faites par mes élèves. Je me souviens d'un architecte qui m'a fait visiter la maison qu'il n'avait pas encore construite dans la montagne, dans le Valais. Je me trouvais dans le Valais, il m'a dit, venez voir ma maison. Alors, on a été sur un plateau, il y avait les montagnes, et puis il est rentré dans les espaces imaginaires. Alors, on s'est balayé dans la maison, on dit, allez bien, oui, là, il y a une fenêtre, la lumière va tomber sur une paroi qui sera plus foncée. Et on s'est baladé dans cette maison, on dit, allez bien, ta maison, et tout ça. Et puis ensuite, j'ai eu la joie de l'avoir construite, mais je la connaissais déjà.
Quand vous êtes baladé dans une maison qui n'existait pas, à ce moment-là, c'est ça, m'imager ?
Non, les mimages, c'est autre chose, le mot mimage. Le mot mimage, ce sont des gestes qui n'ont pas de référence avec une image réaliste, quelque chose. Ce sont des fulgurances de gestes dans des rythmes, comme ça, qui sont un petit peu les émotions cachées. Les gestes cachés qui vont ressortir, mais pas dans un langage assez abstrait, en somme.
Quand vous dites « je suis venu à l'architecture aussi par hasard, puisque j'ai rencontré un architecte », vous disiez tout à l'heure « le masque, j'y suis venu par hasard, puisque j'ai rencontré Jean Dasté, qui était le gendre de Copeau ». Ça veut dire forcément, Jacques Lecoq, que toute votre vie, vous avez été extrêmement ouvert oreilles, avec la tête, avec les yeux.
Oui, je pense que pour moi, ma grande joie, c'était de découvrir des choses nouvelles. Et même maintenant, quand je refais des exercices que je connais, je recommence comme si je ne savais rien. Et je redécouvre avec les élèves qui m'apportent l'écho de leur temps ou le regard qu'ils ont maintenant. Alors tous les thèmes bougent lentement. Mais il n'y a pas de gros choc à l'école. Il y a un fond poétique commun qui nourrit un petit peu un mouvement très lent.
Cette curiosité, cette ouverture sur les autres et sur le monde en général, c'est inné chez vous ou...
Oui, je pense. Oui, j'aime ça. C'est-à-dire, à un moment où j'ai eu à choisir entre la mise en scène, la chorégraphie et puis l'enseignement, j'ai préféré enseigner. Pourquoi j'étais plus heureux ? Parce que de monter des pièces et à chaque fois d'être mis en question sur le bien et le mal, ça marche pas, moi ça m'angoissait carrément. Je préfère donc être en recherche avec les élèves, de les aider.
Et vous acceptez qu'eux, ils vous remettent en question, les élèves ?
Oui. En tous les cas, si on dit des bêtises, qu'ils n'écoutent pas les bêtises qu'on dit, et puis à ce moment-là, ils peuvent rectifier. Alors on se met, si par exemple on dit ça ne bouge pas comme ça, je suis très prêt à dire, on va regarder ensemble comment ça bouge.
Bouger, ça c'est un verbe important. Si vous ne l'avez pas mis dans la liste, mais vous auriez pu.
Bouger,
hein,
oui, bouger. J'ai marqué à un moment tout bouge. Oui. Mais bouger, oui. Très important.
Tout bouge, c'était le nom d'un spectacle que vous avez promené partout.
Oui, c'était un spectacle, une sorte de démonstration spectacle que j'ai porté dans tout le monde, oui, et avec les mêmes réactions. C'était intéressant de voir à Hong Kong, Harvard, dans des pays très différents, avec des arts extrêmement différents, les grands-mères comprises, qu'au fond, ils étaient sensibles aux événements de la vie. Très simple.
Alors et aux événements du corps.
Oui, un corps en mouvement, c'était déjà un langage.
Ouais. Et ça fait combien de temps, Jacques Lecoq, que vous ne jouez plus, vous ?
Le tout bouge ?
Oui, que vous ne jouez plus du tout.
Ah, du tout. Il y a une dizaine d'années, je me suis arrêté de faire. Je ne voulais pas arriver sur scène sachant moins bouger qu'avant. Alors j'avais dit, on va appeler ça « tout bouge encore, tout bouge toujours ». Mais ensuite j'ai dit, tiens, je vais faire une leçon. Alors j'ai fait des leçons. Il s'appelle le corps des choses.
Des leçons publiques, en fait.
Publiques, avec des gens. Et je parle un petit peu, je fais passer des gens et comme ça. Et avec le public, on regarde ensemble. Donc, c'est presque une éducation du public.
Ça, c'est pas possible de venir chez vous dans votre école et de dire « je voudrais voir ».
Non.
Non, parce que ça dérange, évidemment.
Ah bah non.
Eh oui.
Non.
Alors, comment on fait maintenant, si on a envie de savoir? Parce que vous ne la faites plus, cette leçon, si publique.
Non,
ouais,
non.
Il faudrait refaire, peut-être.
Il y a le livre.
Il y a le livre, mais on a envie de voir aussi.
Moi aussi. Oui.
Ces trains, elle est conduite à Berca, et la fille est vraiment fantastique. Elle se met la tête sous les pieds et les doigts de pied dans le nez. Brusquement, au plumard, elle fait le grand écart. Elle se met en brise, à bouffer la chenille. Tout à coup, les jambes à son cou, elle s'enroule, se met en boule et se grignote les genoux. L'amour est caoutchouc, avec elle, ce qu'on peut faire, oh, c'est fou. Elle vous prend et toc-toc, on n'est plus qu'une loque. Oh, c'est pas du toc. Elle vous dit ce que l'amour me caoutchouc. C'est un lot, c'est un drôle de petit bout. On la cherche en dessus et on la trouve en dessous. L'amour me caoutchouc. Dans tous les encombrements, elle se glisse légèrement. Elle se faufile, elle me sert de coupe-fil. Par contre, dans le métro, elle se gonfle les pectoraux. Je suis toujours certain de trouver un strapontin. Quand ça peau, j'ai marre, j'y dis, faut que tu te barres, pas moyen. Toujours elle revient, elle s'allonge, se prolonge, c'est un ressort à boudin. L'amour, caoutchouc, pour l'avoir, c'est pas comme du tout. Elle se gondole, elle se détraque, quel drôle de micmac. Moi, elle me fout le trac. Elle met son maquillage, mon caoutchouc. Je voudrais bien pouvoir en prendre un bout. Elle est encore couchée, je m'approche, elle est debout. La bombe caoutchouc.
La môme caoutchouc, c'était Jean Gabin. Dans votre liste, il y a le mot western, Jacques Lecoq. Alors, est-ce que c'est le genre cinématographique ou est-ce que c'est le film western? Parce que je crois savoir que l'un des deux comédiens qui joue dans western, l'un des deux comédiens principaux, il y en a l'un qui sort de chez vous,
oui,
aussi.
C'est très difficile de trouver un mot français commençant par un W.
Oui.
Alors, bon, évidemment, il y a cet écho de ce film-là. Mais ensuite, il y a quand même cette idée des terres de l'Ouest. C'est-à-dire de l'idée de, comme Alain Gerbeau, La poursuite du soleil. Il y a tout ça. C'est-à-dire, c'est par là qu'on a essayé de faire fortune, de trouver quelque chose d'une certaine liberté. Et quand je suis allé en Californie, il y avait des villes qui s'appelaient Eureka, Fortuna. Alors, on voit les immigrés grands italiens arrivant là-bas et criant Fortuna, hein. C'est ça. Donc, c'est cette possibilité de cette poursuite du soleil. Bon, il y a ça. Puis ensuite, western, l'enfance. L'enfance, les chevauchées, l'Utah, le Colorado, ces grandes imaginations, les grands espaces passionnants, où il y a des tueries énormes qui nous font plaisir à voir, je veux dire. C'est ça, dans un jeu d'enfance. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le western.
C'est lequel des acteurs du film western, Jacques Lecoq, qui sort de chez vous? Parce qu'on m'a dit qu'il y en avait un.
C'est Sergi Lopez.
Oui, donc c'est l'espagnol.
C'est l'espagnol.
C'est l'espagnol, puisqu'il y a un russe et un espagnol.
C'est,
espagnol. C'est l'espagnol. Ça vous fait plaisir? Est-ce que ça vous procure une émotion quand vous voyez l'un de vos anciens élèves?
Ah ben moi, je suis terriblement heureux parce qu'au fond, l'école, elle n'existe que par les élèves. Et plus on succède, plus je suis content.
Alors, l'Oscar à Hollywood cette année, ça vous a vraiment...
On était contents parce que c'était quelqu'un de formidable. C'est un très grand acteur. Et qui a joué des bouffons à l'école formidable et comme ça, et qu'il ait eu l'Oscar, on était ravis.
Vous prenez une petite part de cette réussite pour vous? Vous vous dites que, allez...
Bah, vous savez, c'est très difficile de récupérer tous les élèves qui ont du succès en disant « c'est moi ». Ça, je me méfie toujours. On est content, on fait partie de cette même famille que je disais tout à l'heure. Et ils sont tout contents de venir me le dire, en tout cas. Donc, il y a quelque chose qui nous unit. Bah, j'espère être, avoir été, servi quelque chose, voilà.
Il y a le bouffon. Alors, justement, dans la liste, vous disiez que, bon, que c'est effectivement... Chez vous, il y en a beaucoup de travail sur le bouffon. Sur
le... Oui, alors le bouffon, il est né à partir d'une chose intéressante. C'est-à-dire, je me suis demandé à un moment pourquoi, lorsqu'on dit une chose sérieuse, il y a une moitié des gens qui écoutent, qui y croient, et l'autre qui rigole, qui rit. Donc, il se moque un peu de la chose sérieuse que je suis en train de dire. Alors, j'ai dit, je vais aller voir ça complètement. Elle a dit, on va croire en tout. On va croire en tout, on va y aller au grand sentiment, tout, tout. Et c'est le mélodrame qui était au bout. Et j'ai dit, on va se moquer de tout. On s'est moqué de la guerre du Vietnam, on s'est moqué de choses terribles. Et c'était les bouffons. Monsieur Aberçu aussi, qu'on ne pouvait pas se moquer, de, ayant le même corps que le moqueur et le moqué, s'ils étaient sur le même niveau corporel, dans les mêmes costumes. Alors c'est là où j'ai changé les corps et changé les costumes, et on a fait des bouffons de la folie, en somme, de la folie du diable, qui sont moqués dans une grande parodie. Et c'était très beau, parce qu'en même temps qu'ils se moquaient dans la grande parodie, le mystère arrivait, la tragédie arrivait. Alors on était avec Job, on était avec des gens comme ça, et c'était formidable.
Le bouffon Jacques Lecoq, dans la tradition, il est, quand vous parlez du corps qui ne peut pas être le même chez le moqueur et le moqué, le bouffon, il est souvent difforme.
Oui, il peut être difforme, ou il est difforme. Il a des gros ventres, il a des gros pieds, il est gros, en tous les cas, au départ. Et ça, c'est très, très important. Mais aussi, il peut porter, ça dépend des pays. Alors, je me suis aperçu que les bouffons étaient peut-être là où on touchait la partie la plus profonde des cultures des pays. Il y a la magie d'Amérique du Sud avec les animaux volants qui arrivent avec les bouffons. Le français, c'est un cuisinier rablaisien. L'Italie, il a besoin de la musique, des tambours, des grelots. Hein. Les Allemands, c'est les grands mythes de la lorlaille et tout ça. Puis les Nordiques, alors c'est les elfes, c'est la partie un peu fêlée du crépuscule.
Mais il n'est pas beau.
Il atteint la beauté comme Berkoff peut atteindre la beauté.
Oui, il n'est pas beau selon les critères classiques de la beauté. Oui.
Parce que Berkoff, il avait son langage. Il a été aussi près de l'école, Berkoff. Il a fait des stages avec moi, des choses comme ça.
Vous parlez de l'auteur de théâtre, oui.
Alors bon, il a un côté extrêmement violent, vulgaire,
on peut
dire.
Il dit des gros mots tout le temps. Oui,
mais
il ne dit pas que ça. Hein.
Il ne dit pas que ça. Mais dans le même temps, il y a la beauté qui arrive. C'est ambigu avec ça. Mais dans Chez les bouffons, il y a aussi la beauté du diable.
Et le diable, c'est aussi une figure qui vous intéresse.
Oui, il est nécessaire.
Et le bon Dieu, vous y pensez aussi de temps en temps?
C'est pour ça qu'il y a le diable.
Et vous avez une tendresse pour le diable?
Une tendresse, parce que vous, il est plus théâtral que le bon Dieu.
Oui, c'est vrai qu'il est plus marrant.
Il est plus
marrant.
Oui. Et puis il est venu un peu sur la terre, il est venu nous descendre avec nous.
Est-ce qu'il y aurait Jacques Lecoq, pour pousser votre méthode un peu jusqu'au bout, est-ce qu'il y aurait une façon de se dire à un moment donné, comme on peut se dire pour la première fois je suis un arbre, et alors est-ce qu'on pourrait se dire je suis Dieu ou je suis le diable, et est-ce qu'il y aurait des gestes qui en découleraient?
Non. Alors on peut, par exemple, si on parle du clown, alors on peut trouver son propre clown. Parce que c'est là, vous parlez du soi-même, c'est le soi-même, on le trouve par le clown. Ça oui, mais on n'a pas son bouffon, ça n'existe pas, c'est donc une construction qu'on anime, mais il n'adhère pas au corps comme le clown peut adhérer au corps.
Le mimosa qui est là aussi, c'est parce que vous aimez bien ou...
Non, le mimosa, c'est pas. Je préfère les camélias au mimosa en tant que plante. Mais quand j'ai appris que le mimosa, ça venait du mot mime, et que c'était une plante mimeuse, mimeuse.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a une variété de mimosa dont les feuilles se rétractent quand on les touche. Et c'est ça. Donc une sensibilité mimeuse. Ça, c'est ça. Formidable.
Ouais. Donc, mimeuse, alors, mimeuse, ça veut pas dire donc reproduire.
Hein, non.
Quand on touche une fleur et que
sans, donc là, c'est... ça veut dire sensible.
Voilà, sensible.
Comme peut l'être un mimeur.
C'est ça. En fait, le corps qui vous intéresse, Jacques Lecoq, c'est un corps sensible.
Exactement. Mais évidemment, c'était tous ces mots-là, mime, mimésie, mimisme, mimétisme, sont des mots que j'affectionne. Mais j'ai en prenant mimosa. J'ai dit, tiens, ben, ça va ouvrir un petit peu ce mot mime qui reste toujours pour moi une image typique qui est sans avenir par rapport au théâtre dont le corps est mimeur.
Alors, le mimosa, c'est aussi une fleur qui a une odeur très particulière. Vous travaillez sur les couleurs, vous travaillez aussi sur les odeurs.
C'est plus difficile. Non, je travaille moins sur les... Non. Là, je suis sur les lumières, oui, sur les lumières et les couleurs, et les structures, évidemment, d'architecture.
Il aurait peut-être fallu que dans votre vie, vous ayez une rencontre encore avec un parfumeur ou avec...
Que je sois à Grasse, oui. dans les... J'aime beaucoup les parfums et tout ça, mais alors là, je ne peux pas avoir toutes les expériences.
Vers la fin des années 50, j'étais amoureux d'une chanson. Voulez-vous que je vous la chante ? Soyez sympa, me dites pas non. Y'a rien à se dire, y'a qu'à s'aimer, y'a plus qu'à se taire. Qu'à la fermer, parce qu'au fond, les phrases, ça fait tort à l'extase. Quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me débine, c'est étrange, avec les anges. La musique est de Marguerite Monod, les paroles de Bréfard. J'aimerais les avoir écrites, mais les chanter, c'est mieux encore. Y'a rien à se dire, y'a qu'à s'aimer, y'a plus qu'à se taire, qu'à la fermer, parce qu'au fond, les phrases, ça fait tort à l'extase. Gens qui se croient intelligents, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de plus, les gens, que se dire je t'aime comme tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me débine, c'est étrange avec les anges. Je me débine, c'est étrange avec les anges.
Claude Nougaro avec Les Anges. La trace qui est là dans la liste, Jacques Lecoq, c'est de quelle trace s'agit-il?
Pour moi, la trace, elle est pionnière. C'est-à-dire, c'est aussi encore le fait de la première trace. Quand on est dans la neige et qu'il n'y a rien, et qu'on, avec les skis, on rentre, on forme une première trace, j'aime assez ça d'être le premier ou de croire que je le suis. Comme je dirais, dans les pionniers, il n'y a personne devant, mais il y a du monde derrière. Mm. Et ça, c'est important, j'aime assez. C'est
une solitude un aussi. Hein.
Oui, c'est aussi d'un côté, c'est d'être un petit peu seul, de se croire, quand on est tout seul, on se croit le premier.
Mm. vous avez eu véritablement toujours cette... Vous avez toujours été dans cet état de chercher.
Oui, hein, oui, oui, oui. Ah oui, moi, j'aurais été à l'Institut Pasteur, très bien, si j'avais fait une autre activité, où j'aurais été avec Marais, au laboratoire du mouvement à l'époque. Tout ça, je suis fasciné par les premiers.
Et ce qui est décevant, c'est vrai que quand on regarde souvent dans les écoles, quelles qu'elles soient, d'ailleurs les écoles de théâtre bien sûr, mais pas seulement, c'est qu'on s'aperçoit que les gens y arrivent avec quelque chose de tout prêt, hein, à transmettre comme ça, puis que ça ne bouge plus.
Ah oui, je ne crois pas à l'enseignement transmissible d'une connaissance comme ça et comme ça. Je pense que enseigner, c'est aussi avoir avec l'élève une relation privilégiée qui fait que l'élève souhaite de moi que je dise des choses que je ne peux dire qu'avec lui, parce qu'il est là. Donc il y a une transcendance aussi verticale. Donc il y a trois points. Il y a l'élève, il y a moi, puis autre chose. Et cette autre chose, c'est ça qui est intéressant. Et moi, je ne peux comprendre ce que je dis qu'avec des élèves qui me provoquent.
Dans votre école, Jacques Lecoq, vous êtes sélectif, puisque je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se présentent en première année. Vous prenez les trois premiers mois à l'essai, vous ne gardez pas.
Non, il y a un trimestre d'essai, mais qui est au fond la recherche d'une relation. Est-ce que, par exemple, on peut travailler avec ces élèves-là? Et ça.
Alors vous dites si ça vous semble pas possible.
Ben oui, s'il y en a qui viennent pour se faire une psychanalyse souvent.
Mmh. Alors dis-moi, c'est pas
la bonne porte. Mmh. Mais d'un côté aussi, est-ce que les élèves disent, est-ce que c'est mon école ou pas? Donc on a trois mois pour se mettre d'accord. Mmh. Et ensuite, il y a pas, c'est pas comme un club où les élèves rentrent et s'en vont. Alors, la grande sélection, elle se passe pour la deuxième année.
À la fin de la première année.
Oui, où on prend une personne sur trois.
Une sur trois,
c'est sur trois. Oui. Et évidemment, le critère, c'est un critère soit de jeu, d'abord, du comédien. Il faut savoir jouer pour pouvoir faire cette deuxième année-là. Ou savoir être aussi écrire un petit peu, ou savoir être un artiste, comme je dis.
Alors, dans votre école, il y a des gens qui arrivent à 20 ans. Il y a aussi, vous m'avez dit que le plus âgé avait 62 ans.
Oui, c'était Laurence Willy, qui était attaché culturel à Paris, qui a été attaché culturel, qui est professeur de civilisation française à Harvard, et qui est venu faire une année sabbatique dans mon école. Et il avait écrit des livres remarquables sur un village dans le sud de la France, Roussillon, où il avait fait une étude sur les gestes des gens et tout ça.
Mais c'est une école qui est une école professionnelle, donc on n'y vient pas comme ça pour passer du temps.
Non, il faut d'abord avoir fait une expérience théâtrale, d'avoir choisi d'être dans le théâtre.
Et puis, c'est une école qu'on fait à plein temps, donc...
Oui.
C'est pas, oui, on peut pas se dire, parce que là je suis sûre qu'en vous entendant parler, Jacques Lecoq, il y a des gens qui se diraient, moi j'irais bien prendre des cours chez lui.
Mais... Non, je me demandais, est-ce que vous me donnez des cours particuliers pour une personne et tout ça. Alors je dis, non, c'est une école de longue durée, et c'est pas un stage. Dans une école de longue durée, il y a le phénomène des obstacles à passer ensemble, même des crises des élèves qui sont en difficulté. Donc on manie deux choses quand on enseigne à l'école. D'abord, la partie artistique, évidemment, et de création, et puis la partie humaine aussi. Parce qu'on a des gens qui sont peut-être en difficulté, qui vont essayer de faire passer des obstacles. Donc on a un travail très personnel avec les gens.
Savez-vous combien il y a d'écoles ouvertes maintenant dans le monde qui se basent sur vos méthodes d'enseignement, d'anciens élèves à vous qui ont ouvert?
Oui, je ne sais pas le nombre, mais je sais que dans beaucoup de pays, il y a ça. Je sais qu'il y en a en Espagne, il y en a une à Madrid, il y en a une à Barcelone. En Italie, il y en a à Bologne, il y en a à Milan. Tout ça, il y en a une école aussi à Londres. Bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup ont fait des écoles. Soit ils ont fait l'année pédagogique avec moi, donc une autre année pour apprendre à enseigner.
Oui, ça c'est après, une fois qu'on a fini l'école, si on veut enseigner.
C'est ça. Oui. Et bon, il y en a au Chili aussi, il y en a un peu partout.
Oui, peut-être même en Asie, non? Parce que vous avez au Japon, avez des élèves asiatiques en grand nombre.
Il y a la Corée qui va monter une école là-bas.
Oui.
Mais c'est pas des écoles... c'est pas des écoles où il y a sur une affiche et marqué École Lecoq.
Oui, c'est pas une franchise comme on dit pour les boutiques. Hein.
C'est
pas. Oui.
Je pense pas que c'est mieux que ça.
Oui. Oui, alors le livre, le corps poétique, Jacques Lecoq. Donc il va sortir là. Il était prévu pour novembre.
Oui, et
finalement, ce sera peut-être que
dans
début décembre.
Oui,
début décembre. Voilà. C'est un livre donc qui est publié à Actes Sud papier. Et dans ce livre, vraiment, alors vous expliquez.
On essaye d'expliquer sans faire un manuel, parce que c'est très difficile de faire un manuel et puis qu'on le lise, puis on fait exactement la même chose. Oui. J'aime bien aussi qu'à un moment, on est touché par quelque chose, puis on va essayer soi-même d'enseigner quelque chose, mais sans faire à la lettre. Oui. Et ça. Donc c'est un esprit d'ensemble avec des exercices qui sont notés, évidemment, des exercices qui sont extrêmement précis. Mais voilà, c'est un... Je ne sais pas, j'en parle comme ça, mais tant qu'il n'est pas sorti... Ouais,
c'est pas comme une recette de cuisine, bien compris. Et puis quand je vous demandais tout à l'heure comment on faisait pour voir, vous me disiez que c'était
difficile.
Mais vous m'avez dit aussi ensuite qu'il y avait une année entière de cours que vous aviez filmé seulement. C'est dans des cartons pour le moment. Voilà. Alors il faut impérativement prendre tout ça,
le
monter.
Il y a des soirées aussi, des soirées faites par les élèves. Il y en a 4 par an. On invite des gens pour qu'ils aient un contact avec le public, et c'est eux-mêmes qui font les spectacles, qui sont nés évidemment du travail de l'école, mais qui n'est pas mis en scène par nous. C'est eux-mêmes produisent leur propre metteur en scène.
Voilà, c'est aussi une façon donc d'être en contact avec votre travail. Je vous remercie beaucoup, Jacques Lecoq, d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci à vous.
Cette émission a été diffusée le 11 novembre 1997.